France Musique. Les grands entretiens, François Bonnet.
Bonsoir, c'est Eliane Radig, compositeur ou compositrice, comme il vous plaira. J'ai bientôt 88 ans et je continue à sévir dans cet univers du sonore.
Eliane Radig, bonsoir.
Bonsoir.
Hier, nous avons évoqué votre enfance musicale, vos années de jeunesse à Nice, mais nous avons omis un moment important qui a eu lieu durant ces années à Nice, la rencontre avec Pierre Schaeffer et la musique concrète. Alors, quand et comment rencontrez-vous Pierre Schaeffer ?
Je l'ai d'abord rencontré grâce aux ondes magnétiques par la radio que j'écoutais, et un matin, je découvre Pierre Schaeffer, l'étude au chemin de fer, et tout d'un coup, évidemment, il y a un flash avec ma manière d'écouter les avions, et de dire, mais oui, c'était mon chemin de Damas, effectivement, c'est pas idiot qu'il y ait de la musique aussi là-dedans, c'est pas idiot qu'il y ait de la musique dans de l'eau qui coule, et donc ça a été vraiment là le début de la grande aventure de ma vie. Et puis les choses se font quand il en est temps, je vous l'ai dit hier. Donc, je venais assez souvent à Paris, où mes parents habitaient encore. Et un soir, j'allais écouter une conférence de Lanza del Vasto. Il se trouve que c'était une table ronde. Et à côté de Lanza del Vasto, Pierre Schaeffer soi-même. J'étais avec une amie qui avait beaucoup d'entre-gens, connaissait beaucoup de monde à Paris, et je lui demande, est-ce que par hasard vous connaîtriez Pierre Schaeffer ? Ah, mais j'ai dîné avec lui ce soir, vous voulez que je vous le présente ? Oui, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Pierre Schaeffer. À cette époque, il vivait avec Caroline Roche, qui était une jeune femme charmante. Très rapidement, nos deux couples se sont liés également d'amitié, en dehors du fait qu'il m'a immédiatement, évidemment, invité au studio d'essai de la rue de l'université. À cette époque, il y avait Pierre-Henri et sa première femme, il y avait Philippe Arthuis, qui était sur le point de partir. Ça devait être en 1955, je pense. Et donc, j'allais comme ça au studio d'essai, et c'est là où j'ai appris les techniques de montage, les techniques de mixage, les techniques, enfin, tout ce qui fait le fondement de la musique concrète.
Yeah.
C'est comme ça que je suis tombée dans le bain de la musique concrète et découvert des nouvelles techniques que malheureusement je ne pouvais pas appliquer à Nice parce qu'à cette époque-là, les équipements étaient extrêmement chers. Pierre Schaeffer m'avait écrit une très gentille lettre pour le directeur de la radio niçoise en lui demandant de me donner quelques heures par semaine. Donc il considérait que j'étais suffisamment débroussaillée pour pouvoir me débrouiller un peu toute seule. Et je suis allée voir ce directeur qui, hélas, a semblé beaucoup plus apprécier mon anatomie que mes éventuels talents. Et comme dans ces cas-là, je ne comprends rien, mais alors j'étais très forte pour ne rien comprendre. Le résultat a été une lettre dont j'ai le double encore, qu'il a adressée à Pierre Schaeffer en s'excusant et disant que la radio niçoise, qui avait 2 heures par jour d'émission, n'avait pas suffisamment de temps pour me donner 2 heures par semaine. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à ne pas pouvoir poursuivre à Nice, parce que mes petites escapades parisiennes se passaient très bien lorsque mes enfants étaient tout petits, tous les trois très proches. Je pouvais les mettre dans des paniers et les déposer chez mes parents et passer mes journées au studio d'essai. Mais lorsque est venu l'âge de la scolarité, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. J'y a eu des incidents niçois qui m'ont fait que du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter parce que je ne pouvais pas continuer à aller à Paris. Et donc j'ai eu une période de 10 ans où j'ai simplement repris le piano, j'ai pris la harpe aussi. J'avais un très bon contact physique avec l'instrument. Par contre, je n'avais pas d'excellentes mains. Et ça, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas.
Et à Nice, pendant cette période de 10 ans, vous avez quand même l'occasion d'expérimenter grâce à un petit Stellavox qui vous est offert.
Oh oui, oh ben mon petit Stellavox me servait à faire des enregistrements ici ou là. Des enregistrements de mer, des enregistrements de vent, des enregistrements... Ce qui a donné lieu à ma première tentative un peu plus tard, lorsque je suis rentrée à Paris, où là encore, le hasard faisant bien les choses, l'assistante de Pierre-Henri, qu'il avait à cette époque, Marie Luceb, venait juste le quitter, et donc il m'a immédiatement récupérée, enfin, à peine arrivée à Paris.
Parce qu'entre-temps, Pierre-Henri avait quitté le GRMC,
oui,
brouillé
oui.
avec Pierre Schaeffer, et avait fondé son propre studio à Psaume.
Oui. Pierre Schaeffer était également brouillé avec moi parce que j'avais pris le parti de Pierre-Henri, parce qu'il me semblait que Pierre Schaeffer, effectivement, exagérait un peu. Alors que par ailleurs, j'avais une très grande admiration et une très grande amitié pour Pierre Schaeffer. C'est du reste ce qui nous a permis, beaucoup plus tard, 10 ans après, de nous revoir. Et j'habitais Paris, j'étais revenu habiter à Paris à ce moment-là, où j'avais organisé un dîner en invitant Pierre Schaeffer et Pierre-Henri, et où tous les deux sont venus et nous sommes retrouvés tous les trois à dîner. Ça a été la grande réconciliation. Ça devait être dans les années... Je suis revenu à Paris en 67, 68, quelque chose comme ça.
Thank you.
France Musique, les grands entretiens d'Eliane Radigue. En
1967, vous retournez à Paris, vous avec une opportunité de retravailler avec Pierre-Henri.
Voilà.
Alors comment, comment ce travail se fait d'être l'assistant de Pierre-Henri
Le premier jour, c'était un dimanche après-midi où il m'a appelé et il m'a demandé de venir au studio. Bon, très bien. J'y suis allée, il m'a fait asseoir et il a travaillé comme ça, m'a rien fait faire. Bon, ceci étant, on ne bavardait même pas, enfin, c'était silencieux. Par contre, c'est l'année où il a rencontré sa seconde femme et dans les mois qui ont suivi, j'étais beaucoup plus souvent seul au studio qu'avec lui. Et il m'avait mis au classement des BR, des bruits réalistes, ce qui était intéressant, c'est-à-dire simplement mettre des amorces de début, de fin et de leur donner des titres. Et là, j'anticipe, lorsque j'étais allé rendre visite à Pierre-Henri avant sa mort, il avait très gentiment, et ça je pense que c'était un petit clin d'œil qu'il m'avait fait, mis dans un de ces lieux où il y avait des bandes magnétiques partout, bien ouverte, une des bandes qui portait mon écriture. Et je pense que c'était une gentillesse de sa part.
Un petit clin d'œil.
Parce qu'il n'y avait pas de raison pour qu'il ait sorti ça, pour le mettre bien en vue. Mais dans les périodes où j'étais seule au studio, quand j'en avais marre de faire le classement des BR, je commençais à bricoler. Quoi. Une des premières choses justement que j'ai bricolées, c'était en tirant parti en utilisant ces petites bandes magnétiques que j'avais fait avec mon Stellavox, qui étaient des bruits de nature en fait. Le premier élémental, élémental 1. Et élémental, ça a été quelque chose de transition toujours dans ma vie.
Alors avec Pierre-Henri, vous collaborez, vous, Vous faites beaucoup de travail de montage, préparer.
Oui, mais c'est bien. C'était entre autres alors des boucles, parce que c'était la grande passion de Pierre-Henri. Et donc, quand il me donnait une bande, il fallait que je fasse des boucles, mais en les sélectionnant et après en les numérotant, en leur donnant des titres. Enfin, il me donnait beaucoup de responsabilités. Ou alors, il me faisait faire des préparations de mixage. Jamais, rarement autour de 10 minutes. Hein. Il me donnait les bandes et il me disait, voilà, avec ça, tu me... Alors, la première grosse mésaventure que nous avons eue à cet égard, c'est qu'en général, il appréciait parce que je lui donnais plusieurs choses. Et il disait, ah oui, tiens, c'est pas mal, ça, j'aurais pas pensé. Puis alors, un jour, il s'est mis dans une colère noire en me disant, mais comment, qu'est-ce que tu m'apportes? Je t'avais demandé un style polyphonique très différencié. Allez interpréter ça, hein? Et donc, ça m'a mis un petit peu un froid. Mais ça, c'était tout à fait à la fin de mon séjour avec Pierre-Henri, parce que c'est ce jour-là que j'ai décidé que ça suffisait. C'est-à-dire, c'était à peu près un an après qu'il m'ait accueilli, ce dont je suis très reconnaissante, parce que ça m'a permis de prendre pied et main plutôt, dans la bande magnétique.
Il avait aussi un moment où il fallait...
Oui. C'était lorsqu'il a fait l'Apocalypse de Jean. Et toute la fin de l'Apocalypse de Jean s'est faite comme ça. Travailler chez moi lorsque c'était des questions de découpage. Et par contre, avec lui, et il avait eu la très bonne idée de faire venir son ex-assistante, la meilleure qu'il ait jamais eue, Isabelle Chandon, pour tout à fait le final. Parce que quand il y avait 3 démarrages à faire dans le studio, c'était pas possible, il fallait vraiment où lui présidait, évidemment c'est lui qui faisait le mixage, mais il y avait d'une part 3 studeurs en ligne et il y en avait un autre de l'autre côté de la pièce, il fallait vraiment être 2 pour ça. Alors donc, sauf les séances qu'on faisait en studio, je travaillais beaucoup chez moi, et il a eu l'élégance par contre de me laisser cet Olana. Enfin, c'est vrai que j'étais bénévole, hein, jamais, mais ça m'a permis de reprendre pied et main plutôt dans la bande magnétique, à faire des découpages, des montages et surtout à développer les capacités d'écoute beaucoup plus subtiles. Par exemple, différencier plusieurs attaques dans une seule attaque et laquelle il convient de prendre pour faire des boucles. Enfin, ça m'a permis de m'exercer, voilà, pour de bon, là, puisque j'avais mes propres responsabilités.
Voilà, équipé d'un studio personnel à une époque où c'était un luxe complet.
Oui, oui.
Et c'est aussi le moment, si je ne m'abuse, où vous développez des techniques qui ne sont pas forcément des techniques issues de la doxa concrète, à savoir le travail sur les feedbacks,
les feedbacks
et les Larsen.
Oui, les feedbacks et les Larsen. Et ça, bon, c'est Pierre-Henri qui m'avait montré, mais lui, il était beaucoup plus pour les enregistrements et il y avait énormément de montage. Et je dois dire que j'ai fait tellement de collants que j'en avais par-dessus la tête et que j'ai été immédiatement très intéressée par le vocabulaire qui émergeait des techniques justement de feedback, qu'il s'agisse du feedback Larsen entre un haut-parleur et un micro. Et là, j'en viens à l'époque où j'ai commencé à travailler ici chez moi. Il fallait trouver la juste distance avec le micro pour maintenir le Larsen sous contrôle, parce que si on approche trop près, tout fiche le camp, si on s'en éloigne, tout disparaît, et le faire très, très légèrement évoluer, sans aucun autre son que le dosage de l'enregistrement et de la lecture. Il m'a semblé que cette conduite d'essayer de contrôler un Larsen allait plutôt dans l'ordre des sons tenus. Par contre, les feedbacks par réinjection entre deux magnétophones, le comportement, ça peut aller de battements très rapides à pulsations. Donc, et j'ai trouvé ces deux éléments de vocabulaire extrêmement intéressants, extrêmement riches. À partir de ce moment-là, j'ai décidé d'oublier tout ce que j'avais appris, me dire qu'après tout, ces sons électroniques offraient un vocabulaire qui était le leur, donc il était tout à fait permis, à partir de cela, d'essayer de discuter avec eux, enfin, de trouver leur propre langage. Et donc j'ai essayé de faire une musique qui était faite à partir de ces éléments fondamentaux, c'est-à-dire les différents groupes rythmiques, excepté les premiers feedbacks sauvages que j'ai faits. Mais après, j'essayais plutôt de contrôler. Après, je suis assez rapidement venu à ce qui est devenu plus tard le fondement de mon vocabulaire lorsque j'ai eu accès au synthétiseur qui a été la grande aventure de ma vie.
C'est sur cet extrait de Ursal, une œuvre d'Eliane Radigue de 1969, que s'achève cette seconde émission. Rendez-vous demain pour la suite des grands entretiens avec Eliane Radigue. Merci à Emmanuel Alterbach pour les archives sonores, prise de son Yann Fressy, mixage Pierre Monteil, attaché d'émission Flora Sternadel, réalisation Christine Amado.
À réécouter sur francemusique.fr.